Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Nicolas Delerain. Il est animateur fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine. Il a pris le train, il nous a rejoint au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de politique, évidemment, comme on le fait chaque matin à 8h15 sur Bretagne 5, une actualité politique et sociale chargée. On va balayer beaucoup de sujets ce matin. J'avais envie de commencer par ce climat politique compliqué en ce moment. Et on va parler également de la marche, de cette marche contre l'antisémitisme et pour la République qui s'est tenue dimanche à Paris, hein, aussi un peu partout en France, qui a réuni un peu plus de 180 000 participants. Emmanuel Macron, le président de la République, n'a pas souhaité y participer. Il s'en est expliqué hier à Berne, en Suisse. Est-ce que, pour vous, c'est une faute politique ?
Au-delà du fait qu'il n'était pas présent à cette marche, ce qu'on peut dire sur sa non-présence à la marche, c'est que, on n'est pas dans sa tête, donc voilà, Elisabeth Borne était présente. Moi, ce que je note quand même, c'est que cette marche étant à l'initiative de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher, dans cette marche, il y a quelque chose de dérangeant, c'est-à-dire que dès le début, dès l'organisation de cette marche, d'ailleurs je tiens à préciser qu'Olivier Faure a évidemment proposé en amont à tous les partis, d'organiser une marche justement contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. Donc dans cet appel de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher, la présence du Rassemblement National n'a pas été évoquée et a été ensuite redit par Yaël Braun-Pivet en expliquant que finalement le Rassemblement National ils ne défileront pas avec le Rassemblement National. C'était pas forcément la chose à faire. Et en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que les forces de gauche ont pris leurs responsabilités en expliquant que du coup un cordon républicain serait fait lors de cette marche dimanche dernier. C'est ce qui s'est passé. Les forces de gauche ont pu défiler parce que s'il y a bien quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, c'est un problème de la République. C'est un problème qui doit être traité par les partis républicains, et le Rassemblement National n'avait pas sa place à cette marche dimanche. Je le dis très clairement, le Rassemblement National n'avait pas sa place pour la simple et bonne raison que ce parti est l'héritier d'anciens miliciens, d'anciens nazis. Ces nostalgiques du nazisme et de la collaboration n'avaient pas leur place, et même si Jordan Bardella et Marine Le Pen tentent de dédiaboliser leur parti, il y a quand même un héritage qui est là. Ce parti n'a pas sa place dans une marche contre l'antisémitisme et restera profondément antisémite, on peut le dire.
Vous pensez que le RN n'a pas changé par rapport au FN, que il n'a pas coupé le cordon, si j'ose dire?
Non, absolument pas.
Alors, cette marche, il y avait un grand absent aussi, la France insoumise. Et là aussi, hein, même question que pour le président de la République, est-ce que c'est une erreur politique? Est-ce que vous trouvez que les forces de gauche, il manquait quelque chose à ce rassemblement?
Eh bien, écoutez, la décision de la France insoumise de ne pas participer à cette marche leur revient. On sait tous qu'au sein de nos partis, il y a des divergences, il y a des oppositions. Voilà, par exemple, il y a eu certaines personnalités de la France insoumise qui ont défilé, par exemple, à Strasbourg. Je pense à François Ruffin, je pense à Raquel Garrido. J'ai envie de dire, chaque parti a ses problèmes internes, voilà. Pour ce qui est de la France insoumise, le cas Mélenchon restera à traiter pour leur parti. C'est pas aux autres forces de gauche de pâtir de ce souci d'expression de la part de Mélenchon.
Souci d'expression, mais qui rebondit quand même un petit peu sur la gauche en règle générale.
Oui,
on a vu l'expression d'Olivier Faure plusieurs fois, qui a appelé à une forme de tempérance, de modération dans les propos. Et puis, il y a eu des mots qui n'ont pas été prononcés, comme le mot terrorisme par rapport au Hamas.
Et c'est un problème.
Voilà, par rapport à ces attaques sur l'état en Israël, dans les kibbutz, est-ce que là, il y a un problème à gauche, il y a un problème qui s'appelle Mélenchon à gauche?
Oui, et ce problème, je le renvoie à la France insoumise. C'est à eux de régler ce problème. C'est pas au Parti Socialiste d'aller ingérer dans les affaires de la France Insoumise, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que cette expression et le fait de ne pas avoir qualifié le Hamas comme une organisation terroriste a évidemment pâti à l'ensemble de la gauche et à l'union de la gauche et des écologistes. C'est pour 2027 et pour les échéances européennes qui arrivent, c'est évident qu'on a besoin que les positions de la France insoumise soient évidemment éclaircies, et surtout sur ce point.
Voilà, parce que effectivement, vous le dites, hein, les européennes vont arriver vite en juin prochain, juin 2024, et donc il y a des enjeux là aussi pour la gauche en règle générale, mais pour le Parti socialiste aussi.
Oui, évidemment, et on pourra évidemment en rediscuter sans problème.
Voilà, donc ces enjeux à gauche avec les européennes. Le contexte, on en a parlé en commençant, Nicolas Delorin. Il y a également dans ce contexte le vote d'une loi, d'une nouvelle loi, oserais-je dire, loi immigration, avec un volet social qui n'a pas échappé, je l'imagine, au Parti Socialiste. C'est le durcissement de l'AME. Alors, on parle de durcissement, on parle de suppression, on parle aussi d'AMU, donc d'une aide médicale d'urgence qui serait très conditionné. Est-ce que pour vous c'est un échec pour par exemple pour l'accueil des réfugiés en France qui ont recours à ce qu'on appelle encore cette AME aujourd'hui?
Moi, ce que j'aimerais ici souligner avec ce qui s'est passé au Sénat lors du vote de la loi asile immigration, déjà je voudrais remercier nos sénateurs socialistes qui ont pu défendre nos positions et qui ont voté évidemment contre. Ce qui est aberrant et ce qui est une honte, c'est ce que la droite sénatoriale avec les idées du Rassemblement National et avec les sénateurs Rassemblement National ont voté pour la suppression de l'AME. C'est juste indigne en fait dans un pays comme la France, un pays des droits de l'homme et un pays où on est fait d'immigration et c'est normal en fait. Et en fait on ne devrait même pas remettre en cause un principe d'aide comme ça à des personnes qui sont dans le besoin. C'est purement un scandale en fait de remettre ça en cause.
Alors on parle, évidemment la loi va arriver
devant
l'Assemblée nationale début décembre et on imagine qu'il y aura des discussions sans doute assez
houleuses.
Vives, voilà, et peut-être une modification de la loi. Et il n'en demeure pas moins qu'il y a un signal qui est envoyé. Est-ce qu'aujourd'hui la France a peur, j'allais dire de l'immigré, je fais une image, mais a peur de l'immigré aujourd'hui, de celui qui est différent?
J'irai pas jusqu'à là, évidemment, et je ne pense pas que les Françaises et les Français soient justement dans cette peur ou dans cette haine. Je pense que c'est instrumentalisé, en fait. C'est pour détourner le problème sur autre chose, puisqu'on le sait très bien, il y a évidemment d'autres problèmes. Par exemple, très récemment, on a eu le droit encore à un énième sondage ou à des énièmes enquêtes en expliquant que les préoccupations des Français, c'était premièrement le pouvoir d'achat et les salaires, deuxièmement la santé, et troisièmement, l'environnement. Et le problème de l'immigration, et même après, par extension, comme le Rassemblement National le fait, la sécurité et l'immigration reviennent en dessous de ces sujets. Donc moi, je pense qu'il faut se concentrer justement sur les sujets qui préoccupent réellement les Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, et puis l'environnement, la santé. C'est vraiment ces sujets-là qu'il faut mettre à l'ordre du jour.
Alors vous me donnez une transition toute trouvée parce que je veux compter justement vous entendre sur les salaires, sur le pouvoir d'achat aujourd'hui. Là aussi, on est dans un contexte compliqué pour les Français, mais même pour les collectivités qui doivent aider les Français. On pense aux départements, on l'évoquait hier avec notre invité de la matinale, les départements qui sont confrontés à des restrictions budgétaires ou des difficultés pour boucler leur budget et qui sont obligés d'aider les plus faibles, les plus en difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir avoir une grande réflexion autour de ce pouvoir d'achat, autour d'une meilleure répartition finalement des richesses et de l'argent ?
Je crois même que c'est nécessaire. Déjà parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une des priorités qu'attendent les Français. C'est ce que les Français veulent de la part de leur politique, c'est-à-dire de se mettre au boulot. On parle de pouvoir d'achat, on parle de salaire. Eh ben, c'est tout simple. En fait, les Français, quand ils vont faire les courses, voilà, vous allez faire les courses. Vous voyez bien, le panier a augmenté, l'essence, le coût de l'énergie, comment le fait que les salaires, depuis des années, avec le fait de l'inflation, évidemment, sont en deçà de l'inflation. Il y a un moment, il faut juste prendre une décision qui est logique, mais ça, le gouvernement, évidemment, ne veut pas le faire. Mais la décision qu'il faut prendre, et c'est évidemment l'augmentation des salaires. Et par extension, donc un SMIC, comme on le défendait lors du programme des législatives, le programme de la NUPES, c'est-à-dire que un SMIC à 1500 euros net. Mmh. Je dis bien net, hein.
Voilà, net, hein, on est bien d'accord. On est aujourd'hui dans cette spirale inflationniste. Alors, il y a aussi les coûts de l'énergie. On pourrait évidemment se poser la question, pourquoi l'énergie est toujours indexée aujourd'hui sur les prix du gaz au niveau européen, alors que des pays ont fait le choix, on pense à l'Espagne, de sortir de ce système et finalement s'en trouve pas plus mal. Alors, est-ce que l'Europe dysfonctionne à ce niveau-là, par exemple ?
Bah, je pense que en termes de politique énergétique, ce qui serait intéressant, c'est que justement on puisse évidemment s'appuyer sur l'Europe. On arrive aux échéances européennes, ce serait évident qu'il y aurait une politique énergétique à repenser de façon évidemment commune. Ce serait même une force de pouvoir faire que l'Europe puisse aider justement les pays qui sont dans la difficulté du coût de l'énergie. Vous parliez des collectivités, par exemple à la mairie de Rennes et à la métropole plus généralement, le coût pour subvenir aux besoins en termes d'énergie des bâtiments publics, des écoles et puis évidemment de toutes ces infrastructures a explosé. C'est le cas à Rennes, mais c'est le cas partout ailleurs en fait, dans toutes les collectivités. Évidemment, c'est un sujet et le gouvernement ne devrait pas se défiler comme il le fait actuellement.
Alors Bruno Le Maire a beaucoup parlé, on a entendu l'expression du ministre de l'économie autour du ticket restaurant. Alors le ticket restaurant, ça peut paraître anecdotique, mais il y a une réforme qui a été prévue, qui finalement n'aura pas lieu, en tout cas pas dans l'immédiat. On voit aujourd'hui des jeunes, alors je m'adresse à vous, hein, je le disais en commençant, vous êtes animateur fédéral des jeunes socialistes en Ille-et-Vilaine, mais il y a des jeunes qui sont dans la précarité, des étudiants qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui parfois sont obligés de dormir dans leur voiture. Eh bien, ils se servent aussi du ticket restaurant, souvent des parents qui leur le prêtent, leur le passent pour pouvoir déjeuner. C'est une situation assez anormale, mais si demain on modifie le ticket restaurant, on ne pourra plus faire ça.
Oui, justement. Et puis, pareil, là, on est encore sur un problème de méthode de la part du gouvernement. On nous explique que ça va être supprimé, qu'on ne pourra plus l'utiliser dans les grandes surfaces. Mmh. Donc, voilà. Et puis, finalement, rétropédalage, finalement, on pourra. Et puis, on voit bien que dans les esprits, l'idée de la suppression viendra un jour ou l'autre. Vous l'expliquiez sur le cas des étudiants qui ont besoin d'utiliser le ticket restaurant de leurs parents. Mais ici aussi, j'aimerais qu'on puisse après remercier aussi les associations étudiantes qui arrivent
en fait à suppléer.
Oui, voilà. voilà, pardon, excusez-moi, à suppléer justement voilà, ce que l'État devrait faire pour les étudiants précaires. C'est-à-dire, là, par exemple, moi, je prends le cas également de Rennes, avec les distributions qui sont faites, mais les étudiants sont dans le besoin et l'État ne répond pas présent, en fait.
On voit les files d'attente qui sont assez conséquentes. Voilà, on a eu ce reportage d'une jeune étudiante qui dort dans sa voiture à Rennes, dans les colonnes de nos confrères de Ouest France. Est-ce que là aussi, alors on parle beaucoup de réformes, est-ce que là aussi, si demain le Parti Socialiste revient au pouvoir, est-ce que demain il va falloir aussi remettre à plat quelque part, j'allais presque dire la vie étudiante, en tout cas dans son aspect social?
Oui, et puis il y a par exemple ce qu'on défend ici au Parti Socialiste, et je fais l'écho de ce que Olivier Faure a sorti dans son livre Capital Républicain, justement cette idée d'inégalité entre les étudiants, et évidemment c'est un problème qu'il faut régler. Évidemment l'étudiant fils de cadre ou fils d'ouvrier n'a évidemment pas les mêmes chances. Et là, l'État doit pouvoir intervenir et doit pouvoir aider justement ces étudiants en termes de coûts des études. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Quand l'étudiant ne peut pas subvenir à ses besoins, même si c'est pas forcément les frais d'inscription, hein, il s'agit justement, comme vous le disiez, de logement, mais aussi d'alimentation et puis évidemment d'énergie.
De la vie quotidienne.
Mmh. Et justement, c'est à l'État de répondre présent, et également là, il ne le fait pas.
Il y a une forme de discrimination sociale dans le monde étudiant aujourd'hui. Alors vous citiez les fils de cadre ou les fils d'employés ou d'ouvriers qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. C'est vrai qu'un fils d'ouvrier n'a pas forcément la possibilité de demander à ses parents de l'aider, parce qu'eux-mêmes, là encore, on fait référence à l'inflation ou aux difficultés financières du moment, ne peuvent pas l'aider. Ça bride des carrières, ça bride, j'allais presque dire, une émulation pour que demain on ait une jeune génération qui arrive sur la recherche, sur le travail, ça bride quelque part cette évolution.
Ça bride, vous avez raison, et puis en plus pour pallier à ça, ces étudiants qui ont ce besoin justement d'avoir une ressource financière sont par exemple obligés d'aller travailler à côté. Et on le sait tous, le fait d'aller travailler à côté en dehors de ses études, évidemment ça impacte les résultats, ça impacte. Alors certains y arrivent, c'est très bien, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas possible, c'est compliqué, et ça justement on devrait avoir ce qui s'appellerait un revenu universel, un revenu étudiant. Enfin voilà, il devrait y avoir ce que propose la gauche, hein, évidemment dans le programme de la NUPES on l'a proposé, le Parti Socialiste évidemment le propose, et justement avec ce que Olivier Faure nous propose comme réflexion, il serait important en effet que le débat public s'empare de cette question-là.
Donc un débat public autour justement de la question sociale des étudiants. Autre question aussi, alors là on va aller au-delà du monde des étudiants, parce que c'est une question qui nous préoccupe tous aujourd'hui, c'est l'urgence climatique. Alors la jeune génération que vous représentez, là encore, il ne s'agit pas de faire du jeunisme, mais très préoccupé évidemment pour des raisons que l'on peut comprendre par ce changement climatique, cette urgence climatique. Alors il y a plusieurs façons de se battre pour le climat. On voit des opérations spectaculaires parfois même violentes. Est-ce que justement on doit se faire violence pour avancer sur le climat, ou est-ce qu'il faut, j'allais presque reprendre la phrase d'un ancien président de la République, mais savoir raison garder?
Moi je pense qu'on a juste plus le temps, en fait. On a plus le temps d'attendre ou d'être dans il faudrait pas brusquer, ou non, il y a un moment, l'action c'est maintenant. Si on veut pouvoir infléchir sur ce qui se passe, c'est que les politiques qui sont à mener, elles sont à mener maintenant, tout de suite, et pas dans 10 ans, et pas en se disant ah oui, mais en fait ça pourrait embêter telle entreprise, ou l'actionnaire de telle entreprise ne va pas pouvoir recevoir correctement ses dividendes. Non, c'est maintenant. Il faut agir, la population le demande, les Françaises et les Français, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans les priorités des Français, et on les comprend. Enfin, moi-même, enfin, il y a un moment, si on veut pouvoir avoir un monde demain pour nos enfants qui soit vivable, il faut pouvoir engager des transformations dans les entreprises. Il faut pouvoir engager des transformations en termes de transport en commun. Il faut pouvoir engager des transformations même dans l'école. Pouvoir engager, parce que former, c'est très important, mais former aux métiers justement de l'avenir et former à des métiers qui demain seront tournés vers la transition écologique, c'est important et c'est maintenant que les décisions se prennent. Ce n'est pas dans 5, 10 ou 20 ans.
On a trop attendu.
Oui, évidemment. Le moment, on va dire que mieux vaut tard que jamais, voilà. Hein, et c'est maintenant, on doit engager ça. Et puis oui, c'est vrai qu'on a trop attendu, mais voilà. Maintenant, si le pas est lancé et l'action est menée, après voilà, on va pas se mentir, le gouvernement c'est pas forcément le dans ses priorités. La preuve, là, on est sur une comme on en parlait tout à l'heure sur la loi asile immigration. Voilà, j'ai envie de dire bon bah le gouvernement ne veut pas agir comme on devrait le faire. Voilà.
Donc, il y avait d'autres priorités, finalement.
Voilà, c'est ça. Bah, pour eux, c'est d'autres priorités, alors que pour les Françaises et les Français, la priorité, bah, c'est les salaires et l'environnement. Voilà.
Alors, l'environnement, ça nous ramène à la politique, figurez-vous. On va presque conclure là-dessus, mais on a eu cette tempête Ciaran qui a balayé la Bretagne, qui a créé beaucoup de dégâts, beaucoup de difficultés au moment où on se parle. Il y a encore quelques foyers qui n'ont pas l'électricité encore au moment où l'on se parle. Alors on pense à eux, on le dit chaque matin, en espérant que très vite, bien ça soit rétabli pour eux. Les équipes d'Enedis font leur possible, on l'a vu sur le terrain. Et puis on a eu évidemment la visite présidentielle dans le Finistère. Le Finistère qui attendait beaucoup de cette visite, ne serait-ce que pour la déclaration de catastrophe naturelle. Or, ça n'est pas venu, il n'y aura pas de catastrophe naturelle pour la Bretagne, il n'y aura pas de déclaration de catastrophe naturelle. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose, allez, j'allais dire là encore, que politiquement on aurait pu mettre en place, que le président aurait pu mettre en place sans, voilà, sans faire de bruit, si j'ose le dire comme ça?
Eh bien, on a eu une promesse présidentielle justement pendant ce déplacement qui expliquait que oui, l'ensemble des ministères se mettraient pour justement engager et avoir cette reconnaissance des préjudices avec ce classement. Mais on s'aperçoit que non, en fait, encore une promesse non tenue. Et puis là, Mélanie Thomin, a évidemment députée socialiste du Finistère, a évidemment interpellé le gouvernement là-dessus. On attend des réponse du gouvernement, mais apparemment, selon Marc Fesneau, les réponses sont là, et en fait, ce sera un classement moindre et qui ne permettront pas à l'ensemble des sinistrés d'être correctement indemnisés.
Voilà, une enveloppe va être allouée, hein, nous dit-on. Mais... voilà. Le Pas-de-Calais, en revanche, va être déclaré en catastrophe naturelle, voilà, suite aux inondations. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut changer, c'est une question un peu subsidiaire, est-ce qu'aujourd'hui il faut changer la façon de faire de la politique? On a l'impression que depuis des années, eh bien voilà, on fait toujours la politique de la même façon, on l'exerce de la même façon. Alors là, je m'adresse aux jeunes socialistes que vous êtes, est-ce qu'il faut changer la façon de faire de la politique?
Évidemment. Évidemment, il y a des marqueurs, il y a des façons de faire de la politique qui sont à transformer. Par exemple, moi, je pense à l'engagement dans les associations, au sein des villes, de pouvoir que les jeunes s'emparent des questions. Alors nous, à notre échelle, évidemment, on essaye de pouvoir aller parler à tout le monde, d'aller sur le terrain. Récemment, on s'est engagé sur un terrain. On nous a pris un peu pour des fous. On s'est dit, on est allé sur un canton, voilà, et on est allé distribuer des tracts. Mais en fait, c'était un prétexte. Ce qu'on voulait, c'était aller prendre le pouls de la population, justement, en dehors des périodes d'élection. Et c'est ce que les gens nous ont dit. Et ils étaient très contents de voir que nous étions présents. C'était le canton de Combourg, justement, dont je parle. On a pu échanger avec les habitants et les habitantes de ce canton. On a surtout vu des gens qui ne nous parlait pas des mêmes priorités justement du gouvernement, et il nous parlait de ce que nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire l'environnement, les salaires, et donc je pense que, en fait, au-delà même de changer la manière de faire de la politique, c'est surtout en fait de se mettre à l'écoute des Français et pas être à l'écoute d'un agenda personnel de certains politiques. Et justement, écouter les Français, c'est ce que certains politiques devraient faire plutôt que de penser de façon très, très fermée et dans des tactiques pour d'éventuelles élections ou autres. Avant tout, la politique, j'ai envie de dire, c'est une chose, c'est servir ses concitoyens et pas servir ses intérêts personnels. Voilà.
Est-ce que la politique,
ses ambitions personnelles, pardon.
Est-ce que la politique se fait aussi sur le terrain? Alors, vous l'avez dit, hein, en allant à la rencontre des citoyens, mais sur le terrain aussi, peut-être plus local ou peut-être plus régional, on parle beaucoup de décentralisation qui a du mal à venir. Le mot autonomie a été lâché, je vais vous demander ce que vous en pensez. On parle même d'indépendance pour certains qui veulent vraiment sortir du système français. Est-ce qu'en ayant, par exemple, des institutions plus localisées, avec des pouvoirs décisionnaires plus importants, des compétences différentes ou renforcées, est-ce que ça peut être une autre façon de faire de la politique et de mieux coller à la vie des habitants ?
Bah, ce qu'on peut remarquer sur cette proposition de décentraliser davantage, c'est de pouvoir être davantage à l'écoute, comme je le disais tout à l'heure. On se rend compte que pour ce qui est des décisions, on va dire, au sein de la commune, évidemment, les citoyens se sentent beaucoup plus concernés et parce que ça touche à leurs intérêts plus proches, on va dire. Donc, je pense que ça pourrait être c'est évidemment une bonne chose de pouvoir avoir une décentralisation plus poussée que ce qu'elle est actuellement. Ça permettrait justement peut-être de faire comprendre certaines décisions et faire de la pédagogie, mais de façon en fait où la décision elle est prise avec les citoyens et pas en fait prise depuis Paris, voilà. Et en fait cette décision elle doit être prise en concertation. Je parle de ces décisions, mais en fait des politiques à mener sur les territoires. Voilà, le citoyen doit être associé aux décisions, peu importe le sujet. Et puis justement, ça permettrait évidemment de sûrement et même évidemment de pouvoir intégrer justement le citoyen à davantage de participation et donc potentiellement de participation aux élections.
Voilà, donc, oui, parce qu'on a aujourd'hui un déficit de participation. Voilà. Les Français boudent les urnes. Les Bretons, on s'accroche encore un petit peu aux urnes. Voilà, on a toujours été bon élève. Mais aujourd'hui, repenser la politique et peut-être avoir le système décisionnel plus proche des Français, des Bretons. On va se quitter. Vous ne m'avez pas répondu sur l'autonomie. C'est une bonne chose, l'autonomie de la Bretagne, s'affranchir un peu des règles de Paris ?
J'irai pas jusqu'à l'autonomie pour ma part, mais oui, évidemment, plus de décentralisation et plus de compétences aux régions.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Nicolas Delerain, vous êtes animateur fédéral des jeunes socialistes d'Ille-et-Vilaine. Vous avez réalisé ce matin votre première radio.
Exactement, et je vous en remercie. Eh
bien, vous voyez, ça s'est parfaitement bien passé. Et vous reviendrez évidemment au micro de la matinale pour parler politique. Je vous remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Bonne journée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.